This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Suède, on parlera de transparence politique. Ce sera ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Trump à la Maison Blanche. C'est notre feuilleton journalistique du lundi en direct de Washington avec Frédéric Carbone. 18h55, l'édito de Vincent Giré du quotidien Le Monde. Ce soir, la vie quotidienne à Mossoul sous la férule de Daesh. Tout de suite, les Panama Papers.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
C'était il y a un an, au terme d'une gigantesque enquête journalistique publiée simultanément dans 80 pays via 76 médias différents. Une enquête mondiale donc pour dénoncer une fois encore les circuits et les conséquences de l'évasion fiscale, quelles que soient ses formes, des paradis fiscaux également. Alors qu'en est-il un an après? On va en débattre avec Will Fitzgibbon qui est reporter au Consortium international pour le journalisme d'investigation. Bonsoir, vous êtes en direct avec nous depuis Washington et ici en studio, Manon Aubry, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable chez Oxfam, des questions de justice fiscale et d'inégalité, porte-parole et co-auteur du rapport publié par Oxfam sur les banques et les paradis fiscaux. Dites-nous, Manon Aubry, si la publication de ces Panama Papers a été un moment clé dans la connaissance qu'on a de ces paradis fiscaux.
Ça a été un moment clé dans la manière dont on parle de ces questions-là. Il y a clairement un avant et un après Panama Papers, c'est une onde de choc internationale. Plus de 214 000 sociétés offshore qui ont été révélées. On n'a jamais eu de scandale aussi large. Et d'ailleurs, et c'est, il faut le noter, on n'a pas fini d'exploiter les données des Panama Papers. Il y a encore énormément de données non exploitées. Donc il y a un avant et un après de la manière dont on perçoit le problème de l'évasion fiscale. Il est clair aujourd'hui que c'est un problème mondial qui touche tout le monde et qui a un impact sur l'ensemble de nos sociétés. De là à dire qu'il y a un avant et un après d'un point de vue politique, il y a encore un pas à franchir et c'est aujourd'hui le constat qu'on fait malheureusement un an après.
Voilà, il y a un avant et un après dans la puissance de la révélation, dans la mise en scène médiatique et journalistique des choses. Will Fitzgibbon, rappelez-nous précisément comment vous avez travaillé dans ce consortium pour le journalisme d'investigation. Comment vous avez donc travaillé pour coordonner à échelle mondiale la publication des Panama Papers?
Donc, tout d'abord, il s'agit du journal allemand Süddeutsche Zeitung qui a reçu ses 11,5 millions de documents de la part du cabinet panaméen. Ce journal donc a partagé ensuite toute cette masse de données avec l'ICAG pour que nous fassions l'effort de construire tout un partenariat de journalistes rassemblés du monde entier. Donc ça nous a pris des mois et des mois. Évidemment, c'est pas un travail facile. Voilà. Et on a ajouté des journalistes. Le plus qu'on ajoute des journalistes, plus le risque de fuite s'accroît. Mais là, on a réussi le coup.
Oui, vous aviez travaillé dans des conditions extrêmes pour maintenir le secret. C'était une approche paranoïaque de votre part ou est-ce qu'il y avait de réelles menaces sur votre travail?
Je dirais pas qu'il y avait une menace, mais oui, je pense qu'au moins au sein de l'ICAG, nous savions très bien qu'il y avait un risque de fuite et qu'une erreur de la part d'une seule journaliste pourrait détruire tout le projet en entier. Donc disons qu'il fallait bien faire attention tous les matins quand je me réveillais de voir ce qui s'est passé sur nos plateformes encryptées, protégées, qui facilitait quand même le partage et la facilitation de ce projet.
Will, dites-nous un an après, pour vous comme journaliste, est-ce que c'est mission accomplie ou est-ce que vous restez sur votre faim?
Pas du tout mission accomplie. Nous savons très bien qu'il nous reste énormément d'informations à comprendre. D'ailleurs, nous recevons à ICAG presque toute la semaine des petites pistes venues des journalistes ou du monde de la public pour nous inciter à explorer d'autres sociétés, d'autres individus. Et je pense que là, bien qu'on ait vu beaucoup de procès, enquêtes, débats parlementaires, je pense qu'on ne voit que le début.
Restez avec nous, Will Fitzgibbon, en direct depuis Washington. On va en venir maintenant, Manon Aubry, au contenu de ces Panama Panama Papers, extraordinairement riche, qui mettait au jour des pratiques individuelles d'évasion fiscale, pour commencer, de la part d'un certain nombre de grandes fortunes. C'est, on va dire, le côté anecdotique, mais pas tellement hein, de ces révélations.
J'ai envie de dire, c'est la phase émergée de l'iceberg. Voilà. Sur 11 millions de documents, forcément, les journalistes ont sorti les têtes connues. Et les têtes connues, il y a eu des footballeurs, il y a eu le Premier ministre islandais, il y a eu un certain nombre de personnes connues, mais de nouveau, les données n'ont pas été exploitées au maximum. Puis en plus, ce qu'on a tiré, c'est un petit bout de la chaîne globale de l'évasion fiscale. Et donc, on a mis la main sur un cabinet d'avocats qui agit depuis un paradis fiscal, qui est le Panama, et qui crée des sociétés offshore un peu partout dans le monde, avec un certain nombre de partenaires. Mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et dans cet arbre, il y avait déjà non seulement des personnalités connues, mais aussi des facilitateurs connus de l'évasion fiscale, à savoir un certain nombre de banques, dont des banques françaises comme la Société Générale. Donc on voit bien, on a eu une photographie partielle en fait du système d'évasion fiscale.
Que vont faire les banques, si on regarde maintenant rapidement les pratiques d'entreprise et donc les pratiques bancaires, que vont faire ces entreprises-là dans les paradis fiscaux? Qu'est-ce qu'elles cherchent?
Oh, elle cherche quelque chose qui est très simple et qui est facile à penser, c'est de payer le moins d'impôts possible. Et on le voit, d'autres entreprises ont été prises la main dans le sac depuis. On pense notamment à Apple, par exemple, qui a été pris la main dans le sac par la Commission européenne pour avoir un taux d'imposition de 0,005% en Irlande. Quand on sait que le taux irlandais de 12,5% est déjà un des plus bas d'Europe, c'est à se poser des questions. Et c'est de nouveau un exemple assez symptomatique de l'usage très large qui est fait par les grandes entreprises multinationales des paradis fiscaux. Et la question des banques est assez symptomatique parce que l'utilisation des banques est double. Comme on l'a vu dans les Panama Papers, elles servent l'intérêt de leurs clients, c'est-à-dire qu'elles vont les aider à créer des sociétés offshore. C'était le cas de la filiale de la Société Générale au Luxembourg, la filiale Bank & Trust, et de manière à faciliter l'évasion fiscale de leurs clients. Et leur deuxième objectif à ces banques, c'est comme toute entreprise multinationale, bénéficier elles-mêmes des avantages des paradis fiscaux et payer le moins d'impôts possible. Le résultat, on l'a montré la semaine dernière, c'est que les grandes banques européennes font plus d'un euro sur quatre de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux.
Ce qui est absolument considérable, évidemment. Un mot avant de passer justement à ce qu'il reste à faire, et il reste beaucoup de choses à faire, sur la dimension géopolitique de ces révélations. On avait pu voir, on s'en doutait un peu tout de même, mais voir un peu plus précisément les circuits complexes de financement d'activités carrément illégales, comme divers trafics, voire le financement du terrorisme. Dites-nous sur l'aspect justement grand banditisme et paradis fiscaux, ce qu'on sait.
Quand on a de l'argent à cacher, on peut l'avoir à cacher pour plusieurs raisons. On peut l'avoir à cacher tout simplement, c'est presque tout simple, mais c'est un impact important sur nos sociétés parce qu'on ne veut pas payer ses impôts, qu'on soit un particulier ou une entreprise. Et puis, on peut vouloir cacher cet argent parce qu'il est issu de trafic de drogue, parce qu'il est issu du terrorisme, par exemple. Et on profite de l'opacité offerte par les paradis fiscaux pour se refaire une santé et finalement retrouver de l'argent propre. Et on voit bien le rôle multiple aujourd'hui que jouent les paradis fiscaux dans le système international. C'est à la fois des endroits où on a des taux d'imposition très faibles, mais ce sont aussi des endroits extrêmement opaques. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, le combo gagnant pour les grandes entreprises et les particuliers qui profitent des paradis fiscaux. Et puis c'est le combo perdant pour chacun d'entre nous, puisque c'est un manque à gagner pour les différents États.
Alors, en un an, vous avez dit tout à l'heure qu'un euro sur quatre pour un certain nombre de banques venait des paradis fiscaux. Qu'est-ce qui a vraiment changé une fois passé l'effet de souffle médiatique qui a été mondial?
Alors, ce qui a changé, on va voir d'abord le verre à moitié plein. Clairement, on ne parle plus d'évasion fiscale comme avant. Les médias, et ma présence aujourd'hui en témoigne, se sont emparés du sujet. On n'est plus tout seul dans notre coin. Pendant de longues années, des ONG comme les nôtres à Oxfam ont parlé des questions d'évasion fiscale et ont été assez peu entendus et on avait assez peu d'écho, que ce soit médiatique ou politique. Donc, clairement, ça a changé. On s'adresse de manière différente aux médias, on s'adresse de manière différente à la population et aux politiques, et on a davantage d'écoute. Après, ce qui n'a pas changé, ou alors pas suffisamment, c'est les mesures politiques. On a essayé de mettre des pansements là où on avait un système profondément malade de l'intérieur. Et on a essayé de faire un petit peu de transparence là, ici et là, de s'en prendre au Panama, qui est de nouveau la phase émergée de l'iceberg. Mais on s'en est pas pris au cœur même de pourquoi un système d'évasion fiscale subsiste, qui est la concurrence fiscale entre les États, qui est le manque de transparence. Là-dessus, on a des mesures très faibles, tant au niveau français qu'européen, et qui ont malheureusement pas été suivies d'action.
Quelle différence faire sur le plan intellectuel et conceptuel? Quelle différence donc entre paradis fiscaux, évasion fiscale et optimisation fiscale éventuellement agressive?
Alors, il y a en effet beaucoup de termes qui existent. La première frontière à placer, c'est entre le légal et l'illégal. Entre ce que et c'est l'essentiel de l'évasion fiscale des particuliers, c'est en fait la fraude fiscale et c'est illégal. Et d'ailleurs, pour voir le verre à moitié plein, il y a eu des progrès qui ont été faits d'un point de vue de la lutte contre l'évasion fiscale des particuliers, notamment avec l'échange d'informations bancaires entre pays qui sera mis en place progressivement en 2017-2018. Ça, c'est la fraude fiscale. S'agissant de l'évasion fiscale, c'est les pratiques que les entreprises vont appeler optimisation et que je me refuse à appeler comme ça parce que c'est vraiment de l'évasion fiscale, elles évadent.
Mais est-ce légal ou illégal?
C'est essentiellement légal et c'est bien
c'est ça,
là l'enjeu.
Problème.
C'est qu'elles jouent avec les faiblesses du système fiscal international et vont profiter des avantages offerts par les uns et les autres, les paradis fiscaux en l'occurrence, pour déplacer leurs bénéfices vers ces pays, comme l'a fait Apple en Irlande, et une fois sur place, être taxé à un taux parfois proche de zéro, et j'ai envie de dire même proche du ridicule, parce que pour Apple, faut-il le rappeler, c'est 13 milliards d'euros que la Commission européenne demande à l'Irlande de récupérer auprès d'Apple. Et c'est aujourd'hui le cœur de la problématique, c'est l'évasion fiscale, en particulier des grandes entreprises qui représentent l'essentiel en termes d'argent perdu et la plus grande difficulté parce qu'on est aujourd'hui essentiellement dans le champ du légal.
Alors vous dites évasion, Manon Aubry, les grandes entreprises disent optimisation fiscale. Pour que ce soit bien clair, l'optimisation c'est mettre le doigt de pied sur la ligne jaune mais ne pas la franchir, c'est ça?
C'est être dans cette zone grise.
Ah, d'accord, pas jaune mais grise.
Voilà, c'est être dans cette zone grise où par exemple une grande entreprise, nous prenons une marque de hamburgers très connus, qui fait des hamburgers et des frites partout dans le monde, qui va payer un droit, ses filiales en France vont payer un droit d'utilisation de la marque pour le brevet déposé auprès d'une autre filiale qui va être située au Luxembourg. Et de cette manière, un quart quasiment des bénéfices vont être déplacés au Luxembourg. Et au Luxembourg, ils vont payer un taux d'imposition très bas de 1% grâce à différents avantages obtenus là-bas. Et en réalité, l'essentiel de cette pratique est légale, elle n'en demeure pas moins immorale, puisque c'est plusieurs milliards d'euros qui sont perdus pour le fisc. Et à une période où les candidats se battent les uns les autres pour savoir comment financer des mesures politiques, ben en fait, la fraude et l'évasion fiscale en France, c'est au moins 60 à 80 milliards d'euros.
Mais
c'est
alors le budget de l'éducation nationale. Pourquoi on ne le fait pas, Manon Aubry? Quels sont les intérêts politiques au maintien de cette situation?
Il y en a plusieurs. La première, et on s'y est confronté, c'est l'intérêt des grandes entreprises multinationales qui aujourd'hui font pression énorme sur les États pour alimenter cette concurrence fiscale en les mettant en concurrence les uns les autres et in fine essayer de bénéficier du régime le plus favorable. Et clairement, aujourd'hui, l'influence des grandes entreprises, du MEDEF, de la FEP qui regroupe les plus grandes entreprises a un poids énorme dans les mesures politiques qui sont prises. On l'a expérimenté, notamment sur une mesure de transparence fiscale qui devait être imposée à toutes les grandes entreprises multinationales, qui a été in fine censurée par le Conseil constitutionnel. Et on sait que en coulisses, les grandes entreprises ont joué un rôle majeur pour censurer cette mesure. Donc clairement, les intérêts du monde financier qui a le plus à perdre. Et puis derrière, ça demande un vrai courage politique, parce que ça suppose de se mettre autour de la table avec différents États européens par ailleurs, et de se dire bon, maintenant, ça suffit que les grandes entreprises multinationales pillent nos ressources fiscales. Et donc, c'est un peu le jeu, un peu le dilemme du prisonnier. Il faut tous collaborer. S'il y en a un qui ne collabore pas, au hasard, l'Irlande, le Luxembourg, on risque de tous y perdre. Et c'est là-dessus qu'on s'est engagé, malheureusement.
Parce qu'on a vu des choses délirantes au moment où la Commission s'est retournée et a décidé de croiser le fer avec Apple. On a vu l'Irlande dire, mais non, on ne veut pas, surtout ne touchons pas au statu quo, on ne veut pas de cet argent, c'est pas nous qui avons demandé une amende, on n'en veut pas. C'était quand même totalement contre-intuitif.
C'est, je pense, pour bien comprendre le problème de l'évasion fiscale, cette histoire n'est pas du tout anecdotique. Vous avez un État qui est condamné par la Commission européenne à récupérer 13 milliards d'euros.
Et normalement,
qui dit,
c'est bingo.
13
quoi.
Milliards, oui. C'est, de mémoire, quadrupler le budget de la santé en Irlande. Et cet État se dit, non, cet argent, on n'en veut pas. Et avec cet argent, y compris tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent, on se paye le luxe de ne pas le prendre. Ça veut dire que derrière, ce qui se joue en coulisses, c'est le modèle d'évasion fiscale de l'Irlande. Ça en dit long sur les ressources qui sont pillées quelque part par l'Irlande, mais in fine, qui vont pas forcément dans les caisses de l'Irlande, mais dans les caisses des grandes entreprises qui, en jouant ce jeu du chat et la souris, arrive à un taux d'imposition, dans le cas d'Apple, proche de 0%. Mais des histoires comme celle-là, on en a beaucoup. Y avait 5 banques européennes dans le rapport qu'on a sorti la semaine dernière qui ont un taux d'imposition de 2% en Irlande, dont le Crédit Agricole. On voit bien que peut-être que demain, on n'imposera plus les grandes entreprises multinationales. Ce qui veut dire qu'en pratique, que font les États ? Soit ils coupent leurs dépenses publiques, ce qui s'est passé largement ces dernières années, soit ils vont augmenter d'autres impôts plus faciles à collecter, comme la TVA, qui sont des impôts injustes.
Est-ce que le Brexit, Manon Aubry, risque de remettre 100 milliards dans la machine ?
Pour moi, le Brexit, son risque majeur aujourd'hui, c'est d'entraîner encore plus cette course à la concurrence fiscale. Avec le Brexit, clairement, la trajectoire prise par le Royaume-Uni, c'est de devenir le nouveau paradis fiscal de l'Union européenne. Ils ont baissé à 2 reprises leur taux d'imposition sur les sociétés. Et la réponse de la France a été quoi ? De réduire également ce taux d'imposition sur les sociétés de 33% à 28% dans les derniers mois. Et quasiment l'ensemble des candidats à la présidentielle proposent de rabaisser encore ce taux d'imposition à 25%.
Donc on est dans la concurrence fiscale là encore.
Cette belle course qui, in fine, comme je le disais, risque nous mettre dans une situation où demain, les entreprises, les bénéfices des entreprises ne seront peut-être plus taxés.
Merci Manon Aubry, responsable donc de la justice fiscale des inégalités chez Oxfam France. On peut lire le rapport qui a été publié la semaine dernière sur les banques et les paradis fiscaux. Merci également à Will Fitzgibbon, reporter au Consortium international pour le journalisme d'investigation, qui était avec nous en direct depuis Washington. Dans quelques instants, Michael Thébault, ailleurs dans le monde. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out DC, but I changed my way. Take time, I know it, but in a while, you're gonna be mine, I know it, we'll do it in style, cause I made my mind up, you're going to be mine, I'll tell you right now, any trick in a book, and a paper, all that I can find, everybody's hustling. Just to Donovan sur Inter, 18h36.
The BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
On continue à parler de transparence, Michael, et plus précisément de transparence politique avec un pays qui, en la matière, fait figure de modèle, la Suède.
Ah oui, qu'il s'agisse du monde politique, du monde financier ou de la vie quotidienne, toute simple, le principe de transparence, Nicolas, est effectivement devenu une exigence nationale. Bonsoir Isabelle Labéry, vous rentrez tout juste de Suède. Alors dans la vie de tous les jours, Isabelle, comment se traduit cette transparence? Est-ce qu'on peut tout savoir sur tout le monde?
Ah oui, on peut tout savoir, oui. Pour ça, il existe des annuaires très bien faits, directement reliés au fichier d'état civil ou à l'administration fiscale. Et selon les sites, gratuits ou payants, eh bien vous pouvez connaître le nom, l'adresse, le salaire annuel de tout citoyen de plus de 18 ans et plein d'autres choses encore. J'ai fait le test avec Cindy, une Française qui vit à Stockholm.
Là, tu vois, c'est moi. Il y a le numéro de mon adresse, il y a le numéro de mon appartement. Il y a mon numéro de téléphone privé, donc le portable. Il y a ma date de naissance et il y a même mon signe astrologique. Et là, si on clique sur « Regarder à la même adresse », on peut regarder s'il y a quelqu'un qui habite au même endroit que moi. Donc, on peut en conclure que j'ai un copain.
Et ça, c'est pas gênant?
Non, c'est pas gênant. Pour nous, ça a pas d'intérêt, donc c'est pas problématique.
Alors, dans cette société très égalitaire qu'est la Suède, cela vaut aussi pour les élus, qui sont même soumis à une exigence de transparence encore plus grande. Au Parlement suédois, sur une toute petite île au centre de Stockholm, j'ai rencontré Stig Henriksson. Aujourd'hui, il est député, mais il a longtemps été maire et redevable de chacun de ses faits et gestes. Écoutez.
The newspaper could call me and say, what websites did you visit?
Les journalistes m'appelaient pour me demander la liste des sites internet que j'avais consultés pendant la semaine. Pour les coups de fil, on peut aussi savoir qui j'ai contacté ou qui m'a appelé. Et pour les SMS professionnels, c'est pareil, les gens peuvent demander à les lire. À la mairie, il y a un service qui s'occupe de transmettre ces données-là. Quand vous savez tout ça, vous faites attention, mais c'est notre système. Et ça vous aide à garder une certaine éthique.
Quant au contrôle des fonds publics, il est extrêmement strict. Stig Henriksson ne paye rien lui-même, ni déplacement, ni hôtel. Tout est pris en charge par le Parlement, y compris d'ailleurs le salaire de son assistante parlementaire. Et puisqu'on parle éthique, je lui ai demandé si ça lui arrivait aussi de recevoir quelques cadeaux.
On doit tous les déclarer à l'administration et s'ils valent plus de 20 euros, on doit leur donner. Une fois, on m'a offert des verres à whisky. Ça valait plus. Je n'ai pas pu les garder.
Quand on lui parle des trois costumes de François Fillon à 13 000 euros, ça le fait bien rire, Stig Henriksson. Il répond que lui, il n'aurait même pas pu accepter une simple cravate.
C'est impressionnant, hein. Certains parleraient même de dictature de la transparence. En tout cas, j'imagine, Isabelle, que dans ce contexte, évidemment, le moindre faux pas est immédiatement sanctionné.
Oui, les démissions express sont très fréquentes. Il y a 11 ans, deux ministres avaient dû abandonner leurs fonctions. L'une n'avait pas déclaré l'emploi de sa nounou et l'autre avait oublié de payer sa redevance pendant quelques années. La dernière en date, c'était l'été dernier, celle d'Aïda Adzialic, 29 ans, jeune et brillante et prometteuse ministre de l'Éducation. Hélas, contrôlée positive au volant de sa voiture. Dans la foulée, elle convoque la presse pour faire son mea culpa.
I förrgår kväll var jag i Köpenhamn med en vän och skulle ta mig till Malmö.
Aïda Adzialic explique qu'elle a bu deux verres, l'un de vin rouge, l'autre de mousseux, et qu'elle a fait, je cite, la plus grosse erreur de sa vie en prenant la voiture. 4 heures plus tard, mais on m'a appris à assumer les conséquences de mes actes, dit-elle. Petite précision, son taux d'alcoolémie s'élevait à 0 g d'alcool par litre de sang. Pas de chance, juste le niveau à partir duquel il est interdit de conduire en Suède. Plus récemment encore, il y a 15 jours, un député conservateur a dû publiquement s'excuser pour avoir utilisé les points de fidélité de sa carte de train pour acheter du vin. Or, la carte, c'était celle du Parlement. Le vin, c'était pour sa consommation personnelle. Il y en avait tout de même pour environ 1000 euros. Le député a promis, rouge de honte, qu'on ne l'y reprendrait plus.
Alors, on est effectivement très loin des pratiques françaises. Et pour les Suédois, Isabelle, eh bien, toute cette transparence est source de vertu démocratique.
Bien sûr, parce qu'elle permet surtout aux citoyens de peser sur les choix politiques. Les municipalités en Suède publient désormais sur un site internet public toutes les décisions qu'elles envisagent de prendre. Ça veut dire que bien en amont, les citoyens peuvent donner leur avis et même changer le cours des choses. Écoutez, Daniel Elden, il est vice-maire de Stockholm en charge de la circulation.
Une fois, on a voulu changer les règles du stationnement longue durée dans Stockholm en augmentant les tarifs, même pour les résidents. On a reçu des tonnes de mails et d'appels de gens mécontents qui avaient consulté le projet. Il y avait beaucoup de choses justes dans ce qu'ils disaient et comme ça ne sert à rien de prendre des décisions dont les citoyens ne veulent pas, on a revu notre projet.
Précisons que si les Suédois sont aussi attentifs à l'usage de l'argent public, c'est parce que leur pays a l'un des taux d'imposition les plus élevés d'Europe.
Et oui, bon alors du coup, comment juge-t-il ce qui se passe ici en France ?
Eh bien, dans ce pays pétri de rigueur protestante, on a beaucoup de mal à comprendre qu'un François Fillon ou une Marine Le Pen soient toujours dans la course. Christian Ekström dirige une association de contribuables à Stockholm.
Je critique beaucoup de choses dans mon pays, mais cette transparence est une bonne chose et vous devriez l'adopter en France. Parce que les seuls qui en souffrent, ce sont les politiques et les fonctionnaires corrompus. Pourquoi est-ce que nos hommes politiques auraient des choses à nous cacher ? Et pourquoi est-ce qu'on les laisserait faire ? Nous les avons élus pour qu'ils servent nos intérêts et pas l'inverse.
Car dans l'esprit de tous les Suédois, le politique est forcément au service du collectif. Écoutez aussi les interrogations d'Ulrika Buge, journaliste au Dagens Nyheter, le grand quotidien suédois.
Comment vous interprétez cette espèce de manque de moralité en France parmi les hommes politiques ? Parce que c'est vrai qu'ici en Suède, on devient l'homme politique parce qu'on a envie de vraiment faire quelque chose pour le peuple, pour le pays. On a l'impression que les hommes politiques en France sont vraiment dans le magot, on dit ça, c'est ça ?
Les magouilles.
Les magouilles, voilà, c'est ça.
Et le magot aussi.
Pour moi, ça me choque vraiment. Mais en France, on a l'impression que ça passe, quoi.
Et précisons enfin, Mickaël, que tous les Suédois que j'ai rencontrés lors de ce reportage m'ont fait la même remarque. Si vous avez encore toutes ces dérives en France, me disait-il, ça veut juste dire que vous les acceptez.
Isabelle Labéry, merci. Enfin, c'est de moins en moins vrai, tout de même.
En bref, Mickaël, Moreno gagne, Assange respire.
Ah, c'est vraiment ça, et c'est même au iota près ce qu'on pouvait lire ce matin sur plusieurs blogs de soutien à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, car dès hier soir, le socialiste Lénine Moreno a officiellement revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle en Équateur, se targuant de mettre fin à l'ère Correa et d'empêcher en plus, je cite, « les banques vautours de fondre sur le pays ». Allusion bien sûr à son grand rival de droite, l'ancien banquier d'affaires Guillermo Lasso, qui durant la campagne avait promis d'annuler l'asile dont bénéficie Julian Assange dans le mois suivant sa prise de fonction. Assange, vous le savez, qui vit réfugié, retranché à l'ambassade équatorienne de Londres depuis juin 2012, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour un viol commis en Suède, ce qu'il nie. L'Australien qui craint aussi d'être extradé aux États-Unis où là, il risque de très lourdes peines pour la publication de documents confidentiels militaires et diplomatiques. Julian Assange, tout heureux, et qui s'est donc empressé de tweeter en espagnol cette nuit. J'invite cordialement Monsieur Lasso à se retirer d'Équateur dans les 30 prochains jours, avec ou sans ses millions offshore. Sauf que Guillermo Lasso conteste aujourd'hui les résultats du vote. Après dépouillement de 99% des bulletins, il obtient 48,85% des suffrages contre 51,15% à Lénine Moreno. Fraude grossière et manifeste, dit-il. Et il appelle donc à recompter l'ensemble des bulletins de vote. Autrement dit, Julian Assange ne respire pas encore totalement. Et pour finir, Nicolas, petite devinette sonore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un avion.
Ah, j'allais dire un avion de ligne.
Pas du tout. Eh bien, c'est le bruit assourdissant que fait un glacier lorsqu'il s'effondre. Et réchauffement climatique oblige, il s'effondre et fonde de plus en plus. Eh bien, pour mieux les protéger, justement, un tribunal du nord de l'Inde a reconnu ce week-end deux grands glaciers comme des personnalités juridiques, statuts permettant de mieux les protéger face aux menaces environnementales. Il s'agit des glaciers Gangotri et Yamunotri qui alimentent les deux fleuves les plus sacrés du pays, le Gange et la Yamuna, fleuves qui bénéficient déjà de ce statut de personnalité juridique. Et la justice indienne ne va pas s'arrêter là. Elle compte, dans les prochaines semaines, étendre ce statut à d'autres entités naturelles himalayennes, dont des prairies, des lacs, des forêts et même des cascades. À demain.
À demain.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Et Trump à la Maison-Blanche, c'est notre feuilleton journalistique du lundi en direct de Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va mettre entre parenthèses cette semaine les suites du dossier russe, Frédéric, qui nourrit encore la vie politique chez vous. Pour se concentrer ce soir sur la relation entre Trump et ses électeurs, il faisait bloc ses électeurs, mais il apparaît là maintenant quelques premières fissures.
Écoutez, c'est en tout cas ce qu'enregistrent les sondages. Une cote de popularité désormais en dessous de 40% de manière générale. Le socle reste solide, mais oui, il y a bien des interrogations ici ou là. Et le visage du doute, c'est celui d'un père de famille qui avait suivi le candidat Trump pendant toute la campagne. Il avait assisté à 45 meetings. C'est un homme qui a perdu son fils à la suite d'une overdose et qui croyait en la promesse de Donald Trump de prendre soin de cette Amérique blanche ravagée par l'épidémie d'opioïdes et de drogue. Craig Moss a donc perdu la foi en Trump parce que son champion a soutenu une réforme de la santé, finalement pas votée, on le sait, mais qui supprimait toute aide à cette population. Depuis, Craig Moss fait le tour des télévisions pour raconter son désarroi.
Je pense qu'il ne disait pas la vérité quand il parlait. Il voulait juste qu'on vote pour lui. Il ne fait pas ce qu'il avait promis et je me sens blessé. Vous savez, il faut une vie pour gagner la confiance. Il faut une minute pour la perdre, donc il faudra beaucoup pour la regagner.
On est bien sûr dans un cas très personnel, mais la réalité, c'est bien que les coupes budgétaires voulues par Donald Trump et la réforme de la santé toujours envisagée heurteraient une partie de son électorat. Le président américain le sait, et au milieu de toutes les turbulences de son début de mandat, il prend soin de mettre soigneusement en tête sa proximité avec son peuple. Voilà donc les mineurs de charbon, figure emblématique de la campagne, à l'honneur dans l'enceinte même de l'Agence pour l'environnement lors de la signature des décrets effaçant le plan anti-réchauffement climatique de Barack Obama. Écoutez ce que disait Donald Trump.
Je veux rendre hommage aux gens réellement fantastiques qui sont là. Nos incroyables mineurs de charbon. Ils m'ont parlé des menaces sur leurs emplois et leur mode de vie. Ils m'ont parlé de tout ce qui était fait pour détruire leurs mines, leur communauté, leur façon de vivre. Et je leur ai fait cette promesse, nous allons remettre nos mineurs au travail.
Alors l'emploi, la promesse centrale du candidat Trump au cœur aussi d'un autre décret signé ces derniers jours, celui sur les traités commerciaux.
Et le moment politique de la semaine, Frédéric, ce sera le vote pour élire ou non un nouveau juge à la Cour suprême. Ça s'annonce difficile, hein.
On est en effet dans la semaine de vérité pour la nomination du juge Gorsuch à la Cour suprême, qui là serait clairement une victoire politique pour Donald Trump. On est dans la priorité des priorités pour la frange conservatrice de son électorat. Le parcours d'obstacles des auditions est terminé pour le candidat de la Maison-Blanche. Et ce juge Gorsuch a pris soin de ne pas apparaître idéologiquement marqué, ne donnant pas son avis notamment sur les questions sensibles comme l'avortement. En fait, il se présente comme un juge impartial.
Il n'y a pas de juge républicain ou de juge démocrate, nous avons simplement des juges. Je prends le processus judiciaire très au sérieux, j'avance pas à pas en restant tout le temps l'esprit ouvert et avec la plus grande humanité possible. Tout le reste, je le laisse à la maison et je prends ma décision basée sur des faits.
Voilà pour la profession de foi juridique et pendant les longues auditions, le juge Gorsuch est apparu comme compétent, politiquement incontestablement habile, mais cela ne garantit pas une confirmation aisée. La commission judiciaire du Sénat vote ce soir, l'ensemble du Sénat votera normalement vendredi. Théoriquement, il faut une majorité qualifiée, donc pas simplement, pas uniquement les républicains, mais à écouter Chuck Schumer, le patron des démocrates au Sénat, ça n'est pas acquis.
Il devra mériter les 60 voix pour sa confirmation. Moi, je voterai non et j'encourage mes collègues à faire pareil.
Alors qu'il est 3 sénateurs démocrates seulement sont prêts à voter pour le juge Gorsuch, les républicains dénoncent une obstruction injustifiée et le patron républicain du Sénat est même prêt à changer la règle pour qu'un vote à la majorité simple suffise. Le dialogue bipartisan, Nicolas, était déjà moribond, mais cette nomination à la Cour suprême risque de signer son arrêt de mort.
Autre dossier brûlant, Frédéric, car le sujet est crucial. On va parler de baseball et de politique avec un accroc sévère au protocole présidentiel.
C'est vrai, le lancer de la première balle de la saison au stade de baseball, c'est un rituel depuis le président Taft en 1910. Et vous avez raison, Nicolas, c'est sérieux, c'est tellement crucial que cela nécessite une vraie préparation. Voilà, vous avez là Bill Clinton qui raconte qu'il s'était entraîné pendant 3 jours, une semaine même, pour lancer correctement. Barack Obama, lui, était venu au stade avec le maillot de son équipe fétiche, les White Sox de Chicago, mais Donald Trump a répondu négativement à l'invitation des Nationals de Washington, le club de la capitale. Il ne sera donc pas là dans 10 minutes exactement pour lancer la saison du passe-temps national des Américains. Et pourtant, là comme ailleurs, c'est le meilleur. Petite pépite sonore, interview qui date de 2014, accordée à un de ses biographes.
J'étais le meilleur joueur de baseball de New York quand j'étais jeune. Mon père était dans l'immobilier, moi ça ne m'intéressait pas. J'aurais voulu être sur le terrain, être dans le sport. Mais à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent dans le baseball. Tout le monde voulait que je joue au baseball, mais j'étais bon ailleurs, dans la lutte ou dans le football. En fait, j'étais le meilleur en sport.
Éternel Donald Trump, pour justifier son absence, il met en avant un agenda trop chargé. Aujourd'hui, peut-être veut-il aussi éviter le risque de siffler dans une ville où il a réalisé moins de 10% des voix à la présidentielle.
Et puis le journal des sports continue avec vous, Frédéric. Donald Trump ne va pas jouer au golf avec son homologue chinois. Mais que se passe-t-il?
Je vous sens tout déçu. Mais vraiment, c'est vrai, en fin de semaine à Mar-a-Lago en Floride, où Donald Trump recevra son homologue chinois Xi Jinping, la collection de photos sur les greens entamées avec le japonais Abe aurait pu s'allonger, sauf que dans le cadre de la lutte contre la corruption, ce même président, nous apprend le New York Times, président chinois, a interdit la pratique du golf aux dirigeants chinois. Il va donc falloir trouver une autre activité, peut-être une bonne soirée de télé devant Fox News.
Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci. Gorillaz à 18h53 sur Inter, puis Vincent Giray. Gorillaz sur Inter, l'édito.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
De Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez ce soir à Mossoul, deuxième ville d'Irak, où les témoignages de survivants disent, Vincent, l'horreur de l'occupation de la ville par Daesh.
Oui Nicolas, alors que la ville de Mossoul est sur le point d'être reprise enfin par les forces irakiennes, les témoignages affluent sur l'enfer que furent ces presque 3 années de règne des hommes en noir de Daesh dans la ville symbole du groupe djihadiste. Les cadres et les dirigeants de Daesh sont pratiquement tous issus de cette ville de 3 millions d'habitants et de sa région. Mossoul fut ainsi la capitale de l'organisation de l'État islamique, capitale politique et plus encore économique et financière du groupe jusqu'au moment où la coalition a commencé à les cibler. Le groupe a d'abord développé un large réseau d'extorsion de fonds, rackettant commerces et entreprises, imposant un impôt révolutionnaire et une taxe de 10% sur les salaires. Quelques 8 millions de dollars ont ainsi été prélevés tous les mois avant même que Daesh ne contrôle totalement Mossoul. Très vite, les hommes de l'ISBA, la police religieuse, religieuses patrouillent, les femmes se voient imposer la tenue la plus stricte, le niqab à quatre épaisseurs et les longues en noir. Les fonctionnaires sont invités à se présenter pour se repentir. Et puis une grande traque commence contre tous ceux ayant travaillé dans les médias, la commission électorale, la commission anticorruption, les services de sécurité, les chefs religieux. Beaucoup sont jetés dans des prisons improvisées, dans des sous-sols de villas de certains quartiers. Les femmes sont violées, les prisonniers entendent à l'étage les combattants disposer de leurs esclaves sexuels.
Et les témoignages, Vincent, sur les pratiques systématiques de la torture sont absolument édifiants.
Oui, notre reporter Hélène Salon a recueilli par exemple le témoignage d'un jeune homme de 26 ans, habitant de Mossoul, arrêté par Daesh, enfermé pendant des jours dans des pièces closes, sans électricité. Des gardes se succèdent pour les insulter, leur annoncer leur exécution, leur procès ou parfois, très rarement, leur libération. Certains sont torturés à l'électricité, d'autres subissent des simulacres de noyade, d'autres encore sont frappés nus dans le froid, suspendus par les pieds et frappés jusqu'à perdre connaissance. Beaucoup sont exécutés après d'atroces souffrances. Il ne faut pas oublier que l'horreur, l'abomination, l'épouvante sont le carburant assumé, revendiqué de Daesh pour semer le chaos et tenter d'en enraciner sa domination.
Alors que demandent maintenant les survivants de Mossoul, Vincent, et de la région ?
Eh bien, beaucoup des dizaines de milliers de déplacés veulent tout simplement rentrer chez eux, Nicolas. Tenter de retrouver leur maison ou ce qu'il en reste. L'urgence est de reconstruire des habitations dans les quartiers libérés de Mossoul et dans tous les villages aux alentours. La communauté internationale ne doit pas reproduire les erreurs du passé en Irak. Il faudra donc aider et financer la reconstruction pour tenter de redonner aux survivants un semblant de confort. Il faut aussi écouter et entendre le père Louis-Raphaël Sacco, patriarche de Babylone, des Chaldéens, minorité chrétienne, qui s'exprime ce matin chez nos confrères de la Croix. Il raconte d'abord que sa maison a été pillée par ses voisins et que le plus urgent, le plus sensible, est de tenter de reconstruire de la confiance, de l'amitié entre des communautés qui vivaient encore ensemble il n'y a pas si longtemps. La communauté internationale, dit le père Sacco, doit soutenir la reconstruction du pays sur la base de la citoyenneté. Il ne faut plus de lois sectaires qui font des chrétiens des citoyens de seconde zone, des koufars, des mécréants, des dhimmis. Nous ne l'accepterons plus, dit-il. Il faut un état civil séparé de la religion. Aujourd'hui, ajoute le patriarche de Babylone, nous sommes tous contaminés par l'esprit bédouin. Au lieu de nous sentir irakiens, nous nous replions sur nos communautés ethniques où chacun veut être le chef. Or, nos communautés elles-mêmes sont divisées. Les musulmans entre chiites et sunnites, les chrétiens entre assyriens, arméniens, chaldéens, c'est cette mentalité qui doit changer. On ne saurait mieux dire, Nicolas, c'est un programme politique majuscule. Le patriarche veut y croire tout simplement, dit-il, parce que tout le monde ici est fatigué de ces guerres absurdes. On a vraiment envie de le croire, nous aussi, Nicolas.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur les syndicats dans la campagne présidentielle. 35 heures, dialogue social, place du travail dans une société de plus en plus numérique, rôle, nombre de fonctionnaires, définition, redéfinition des services publics. Les sujets de débat sont nombreux, les visions du monde très différentes selon les candidats. Alors, quelle analyse de la part des syndicats, quelle préconisation? Intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.